Ça y est, on y est. C'est le début de notre série éthique, choix de vie. Alors moi, j'aime bien l'image du gars qui hésite, qui ne sait pas trop quoi faire, qu'on voit sur les pubs qu'on a mis pour cette série-là. Alors aujourd'hui, on commence avec le mariage. Le mariage, on peut se poser plein de questions par rapport au mariage. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas faire une liste exhaustive de toutes les questions qu'on pourrait se poser, de tous les choix qu'on pourrait faire. On va surtout essayer de voir quels sont les principes de base que nous enseigne la parole de Dieu et que ce soit ces principes-là qui nous inspirent pour faire nos choix. Mon objectif ce matin, c'est vraiment qu'on puisse prendre conscience de quelle est la volonté de Dieu par rapport au mariage et quelle est notre difficulté à raisonner de la même manière que Dieu. On ne se rend peut-être pas assez compte, mais notre raisonnement est faussé par notre culture ambiante qui est souillé par le péché. Et donc, du coup, il y a plein de choses qu'on va trouver normales par rapport au mariage qui sont en fait liées à cette corruption de nos pensées. C'est pour ça que c'est important de proclamer la parole de Dieu. Et je ne vais pas vous dire des choses très originales, je ne vais pas vous apprendre des scoops par rapport au mariage. Je pense que ça va quand même des choses simples que vous connaissez sûrement déjà. Mais rien que de se les rappeler, ça peut changer notre manière de voir les choses et inspirer nos choix. Des difficultés quand on aborde un thème comme cela, c'est que le mariage, ça touche quelque chose de très intime. C'est quelque chose qui peut nous prendre la tête d'une manière ou d'une autre, qu'on soit marié ou qu'on ne soit pas marié, et ça peut générer beaucoup de souffrance dans nos vies. Et c'est pas facile d'aborder un sujet comme ça, comme si on avait une leçon en classe. Non, c'est un sujet de vie. Et peut-être que ce matin, je vais ruer le couteau dans la plaie. Non, c'est pas que j'en ai envie, mais que, inévitablement, ça pouvait le faire. Et j'aimerais qu'on soit encouragé par le fait que le projet de Dieu pour nous est bon. Et que de s'en rappeler, de le ressasser, de le proclamer, c'est libérateur. Et je veux que ce soit un encouragement pour chacun d'entre nous. Alors, on va s'articuler en deux parties. La première, ça va être simplement le cadre biblique du mariage. Et la deuxième, on va aborder quelques mensonges courants qu'on trouve dans notre société par rapport au mariage et qui faussent notre compréhension de ce qu'est la volonté de Dieu. Alors, on va commencer avec un texte de référence qui est dans l'évangile de Marc. Donc, si vous avez votre Bible, je vous invite fortement à prendre le texte sous les yeux et le garder pendant tout le message parce qu'on on va y revenir. Donc c'est le chapitre 10 de l'évangile de Marc, avec les versets 1 à 12, mais il sera affiché aussi si vous n'avez pas votre Bible ou que vous n'avez pas le temps de trouver le passage tout de suite. Jésus partit de là pour se rendre dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblent autour de lui et selon son habitude, il se met à les enseigner. Les pharisiens s'approchèrent et lui posèrent une question. Un homme a-t-il le droit de divorcer avec sa femme? Il voulait par là lui tendre un piège. Il leur répondit, quel commandement Moïse vous a-t-il donné? Moïse, lui dirent-ils, a permis de divorcer avec sa femme à condition de lui donner un certificat de divorce. Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ce commandement pour vous. Mais au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent à nouveau sur ce sujet. Il leur dit, celui qui divorce et se remarie commet un adultère à l'égard de sa première femme. Et si une femme divorce et se remarie, elle commet un adultère. Alors, si vous avez des titres, des sous-titres dans vos Bibles, il y a de fortes chances que dans le titre dans votre Bible, il y ait plutôt le mot divorce qui apparaisse. Alors, on pourrait trouver ça bizarre que pour parler du mariage, on prenne un texte qui parle de divorce. C'est peut-être pas très glamour, hein. De ce qu'il y a un échec du mariage pour parler du mariage. Mais c'est parce que c'est face à une question posée concrètement par les pharisiens que Jésus a l'occasion de résumer très simplement quelle est la volonté de Dieu par rapport au mariage. Alors, avant de rentrer dans les différents enseignements qu'on peut tirer de ce texte, j'aimerais simplement attirer votre attention sur le fait qu'on est en présence de deux logiques très différentes. Celle des pharisiens et celle de Jésus. Et j'espère que si vous êtes dans la première logique, vous basculerez rapidement dans celle de Jésus. Alors les pharisiens viennent voir Jésus alors qu'il est en train d'enseigner les foules. Et au passage, je précise, je vous rappelle que les pharisiens, c'était un parti religieux très influent à l'époque de Jésus et qui était très à cheval sur la loi. Ils se présentent un peu comme des champions de la loi. Et c'était parmi les opposants les plus virulents et les plus récurrents de Jésus. Comme d'habitude, je trouve que la réponse de Jésus à leur piège, parce qu'ils étaient venus pour les tendre un piège, la réponse de Jésus est incroyable, elle est formidable, parce qu'il arrive à éviter de tomber dans le panneau. Et il commence en se plaçant sur leur terrain. La première question qu'il leur pose, que dit Moïse dans la loi? Quel est le commandement qu'il vous a donné? Là, tout de suite, ils sont en terrain où ils sont plus à l'aise, c'est leur domaine quand même, la loi. Moïse nous a dit qu'on peut divorcer, etc. Mais Jésus, il ne va pas commenter ce que dit la loi, mais il va aller plus loin. Il va expliquer pourquoi la loi dit cela. Et en fait, dans le cas précis du divorce, il explique que ce n'était pas la volonté de Dieu de permettre le divorce. C'était réguler un état de fait que Moïse a donné des règles pour ne pas que ce soit n'importe quoi. Et Jésus rappelle que la vraie volonté de Dieu par rapport au mariage, c'était un lien indissoluble. Alors, je disais qu'il y avait deux approches. Clairement, l'approche des pharisiens, c'est une approche qu'on peut dire légaliste. Ils veulent savoir ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, et se débrouiller pour être dans la légalité. Et eux, ce qu'ils avaient envie de faire, visiblement, c'est de pouvoir divorcer si jamais ça les arrangeait pour pouvoir servir leur propre intérêt. Si une femme ne leur convenait plus, trouver un motif de s'en séparer et pouvoir se remarier derrière. Et en fait, la question qui se posait entre eux, c'était même pas si c'était possible, mais quels étaient les motifs pour lesquels ce serait possible. Jésus ne rentre pas dans ce débat-là. Jésus leur explique clairement qu'ils sont complètement à côté de la plaque, qu'ils n'ont pas compris l'esprit qui est derrière cette loi. Le but, ce n'était pas de permettre le divorce, mais de le réguler. Le plan de Dieu, c'est une union qui dure. Le divorce dont il est question dans la loi de Moïse n'est pas un acquis social, n'est pas un acquis juridique, mais un indicateur de la méchanceté des hommes. Alors, aujourd'hui, la pensée juridique, je pense qu'elle est encore plus répandue. Souvent, on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, on dit, oh là là, il y a des procès dans tous les sens, il y a des avocats pour tout. Mais c'est quelque chose qu'ils développent chez nous aussi. On juridise tout. Et on a cette logique-là, juridique. Mais, bien souvent, soyons honnêtes, ce qui est derrière cet état d'esprit juridique n'est pas un grand, fort sens de la justice. C'est plutôt un grand sens de savoir comment défendre ses intérêts personnels. Et le problème récurrent quand on réfléchit à des questions d'éthique, c'est de ne pas chercher d'abord quel est le bien général, qu'est-ce qui est moral, mais plutôt quels sont mes intérêts, comment je peux les défendre. Et encore une fois, j'aimerais qu'on soit conscient à quel point nos raisonnements sont déformés par une société qui met l'individu, l'ego, au centre. Alors, on y arrive à la définition du mariage selon Jésus. Alors en fait, Jésus cite des paroles au début de la Bible, début de la Genèse, le récit de la création. Première chose qu'on peut relever, Dieu a créé l'être humain, homme, femme. Alors, ça peut me paraître banal de le dire, on enfonce des portes ouvertes, mais ça montre que Dieu avait prévu cette différenciation sexuée de l'humanité mâle et femelle parce qu'il avait une idée derrière la tête. Ça s'inscrivait dans son projet. Deuxième et troisième principe que j'énonce ensemble, ce que j'appelle l'émancipation et l'attachement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Alors, on a là clairement une question de changement de rattachement social ou de
le lien privilégié. Depuis enfant, on vit avec ses parents, on vit dans un foyer avec ses parents, ou même ses parents. Et quand on se marie, ce que nous dit ce texte, c'est qu'on doit changer de famille. C'est pas qu'on renie nos parents, c'est pas qu'on les aime plus ou qu'on s'occupe plus d'eux. Ne faites pas dire ce que je dis pas. C'est simplement, socialement, on change de foyer. Ça nous paraît peut-être plus si on parle de foyer fiscal aujourd'hui. Mais bon, on n'en était pas là dans le texte de la Genèse. On a formé un nouveau foyer, une nouvelle unité. Et au passage, il est intéressant de remarquer que si on veut que ce soit réussi de former ce nouveau foyer, il y a une certaine émancipation qui doit se faire par rapport aux parents. Si les parents ont trop d'emprise sur nous, et s'il n'y a pas suffisamment de séparation entre la première famille initiale et la nouvelle nouvellement constituée, ça peut créer des difficultés. Quatrième principe, et les deux ne seront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Dans d'autres traditions, plus classiques ou plus littérales, on a le terme « ils ne font qu'une seule chair ». Alors, il y a plusieurs manières de le comprendre et qui sont complémentaires. La première, celle à laquelle on pense le plus souvent, c'est l'union physique. L'acte sexuel, faire une seule chair. Alors c'est sûr que ça illustre très bien le fait d'être très proches l'un de l'autre. Par extension, il y a aussi la proximité relationnelle, la proximité spirituelle qu'il y a dans un couple, en tout cas dans le projet de Dieu. Mais l'autre point qui me semble très important aussi, et qui est peut-être plus mis en avant dans la traduction que j'ai choisie, ils font un, c'est le côté unité sociale. Une seule famille, c'est ce que je disais tout à l'heure. Or, aujourd'hui, notre vision de la famille, notre vision du couple, est faussée par l'individualisme de notre société, où on met l'ego au centre de tout. Et parfois, on a tendance à voir le mariage plutôt comme la juxtaposition de deux êtres qui trouvent un intérêt à être ensemble, et non plus comme un seul. Si on reprend quelques exemples, comment considérons-nous ces choses? On est un quand on est marié. Quand on a certains choix à faire, au moment où on se marie par exemple, choisir un nom à l'état civil, faire un contrat de mariage ou pas, avoir des comptes joints ou distincts en banque, il y a plein de petits trucs pratiques comme ça. Alors, je ne suis pas en train de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais simplement vous inviter à réfléchir comment nos choix sont représentatifs ou non de la manière dont nous voyons le mariage. Est-ce que nous voyons le mariage comme étant une seule chair? Cinquième principe, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. C'est Dieu qui l'unit. Et ça, peut-être que nous, ça ne nous choque pas trop si nous avons l'habitude de venir à l'église, si nous sommes chrétiens de longue date, mais ça peut être choquant pour d'autres de dire comment ça, c'est Dieu qui l'unit. Mais le mariage, c'est quand même avant tout le choix de l'homme et de la femme qui veulent vivre ensemble, c'est leur consentement mutuel, c'est leur libre choix. Qu'est-ce que Dieu a à faire là-dedans? Cette notion-là peut nous choquer parce qu'elle est à l'encontre de notre société individualiste qui rejette Dieu. Et pourtant, le mariage a été institué et créé par Dieu dès la création. Ce n'est pas une question de croyant, pas croyant, une question de chrétien, pas chrétien, de juif ou pas. Le mariage a été institué pour tous ceux qui ont été créés. C'est valable pour toute l'humanité. Conséquence du fait que ce soit Dieu qui unit, c'est que si c'est Dieu qui unit et que Dieu ne change pas, il n'y a pas de raison qu'il mette un terme à cette union. Et c'est pour ça que ce verset 9 dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Si l'union est rompue, ce n'est pas Dieu qui le fait, mais c'est l'initiative de l'homme. Jésus est extrêmement dur à l'égard des pharisiens et de nous aussi, si on le prend pour nous, quand il qualifie un remariage d'adultère. Ce terme n'est pas anodin. Peut-être qu'aujourd'hui, dans notre société, ça fait moins réagir, ça fait peut-être un peu désuet. Mais un adultère, c'était une infraction majeure à la loi de Dieu. Pour ces spécialistes de la loi, comment ça, moi, adultère? Non, surtout pas. C'est un des 10 commandements quand même, tu ne commettras pas d'adultère. Leur parle. Mais Jésus n'a pas peur des mots. tentation serait très grande pour nous de vouloir rentrer un peu dans les exceptions, de voir quels sont les cas qui sont un peu extrêmes qu'on pourrait tolérer. Et il y a une porte déjà qui est un peu ouverte dans ce sens-là, dans le passage parallèle dans l'évangile de Matthieu, où Jésus lui-même évoque une clause d'exception où il parle de sauf en cas d'immoralité sexuelle. Donc il y aurait des cas d'exception où en pratique, comment on a géré ça. Mais ce n'est pas là où je veux rentrer aujourd'hui. Mon objectif, c'est simplement qu'on prenne conscience du plan de Dieu, d'un lien solide, permanent. Que le mariage fait partie de la création. Et que c'est quelque chose de bon pour l'homme. Et c'est dans notre intérêt que le mariage soit quelque chose de solide. On risque de le voir comme quelque chose de contraignant. Oh non, moi j'aurais pas envie de le changer. Non, c'est dans notre intérêt, c'est pour nous protéger. C'est pour qu'il y ait un cadre suffisamment solide pour que l'humanité puisse se multiplier, se développer. Dieu avait dit à l'homme, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Voilà. Maintenant que le cadre est posé, on va voir quelques mensonges classiques qu'on peut avoir par rapport au mariage, quelques mauvaises conceptions. La première, que je formule ainsi, on se marie parce qu'on s'aime. Vous allez me dire, c'est quoi le problème hein? L'amour, c'est quand même bien pour se marier, non? Il est où le problème? Ce que j'ai en tête, c'est un problème de conception du mariage et de qu'est-ce qui fonde le mariage. Bien souvent, on va voir le mariage comme la cerise au gâteau qui va parachever une romance amoureuse entre deux êtres. Ça va être le petit plus qui va rester romantique. Et la conception du mariage de Dieu n'est pas spécialement romantique, elle est plus sociale ou sociologique que romantique. Alors bien sûr, l'amour, c'est important. Et il y a d'autres textes que je n'ai pas choisi de prendre aujourd'hui, mais qui détaillent l'importance de s'aimer l'un l'autre, et un amour qui est beaucoup plus fort que celui dont on parle dans la société. Mais voilà. Alors, en quoi c'est un problème de dire qu'on se marie parce qu'on s'aime? C'est qu'en fait, quand on dit ça, on se base sur une mauvaise définition de l'amour. On base sur une définition de l'amour qui est très égoïste, encore une fois, et qui est liée à nos sentiments. Souvent, quand on parle d'amour, dans ce sentiment amoureux qu'on a pour une personne, alors c'est tellement fort, c'est beau, il faut qu'on se laisse guider par ce sentiment. Et quand on voit, quand on entend parler d'amour dans la Bible, c'est plus question de commandement ou de volonté. Et donc, avec cette conception-là, le danger, c'est que nos sentiments, ils évoluent forcément. D'ailleurs, pas forcément mal, mais ça peut être en bien aussi. Et si notre union, si notre mariage était basé sur ce qu'on ressentait au moment où on s'est marié, quand ce fondement va évoluer, le mariage peut très facilement s'écrouler. Et c'est là le danger d'une conception fausse, de on se marie parce que on s'aime. Je n'aurais pas ce envie de dire on se marie donc on s'aime. Forcément, il y a des sentiments avant et on s'aime déjà avant de se marier. Mais la logique, c'est plus ça. On se marie donc on s'aime. Pas parce que on s'aime et si jamais on ne s'aime plus, on ne se marie plus. Enfin, vous m'avez compris. Le danger, c'est qu'aussi, si on se laisse attirer par des sentiments pour quelqu'un d'autre, on risque de se sentir obligé par un besoin impérieux de suivre notre amour et quitter la première personne pour s'attacher avec celle qu'on aime vraiment. Je ne sais pas si vous avez vu des films qui présentent cette conception-là du mariage, mais c'est super courant. Et ça montre le danger de ce mensonge et cette fausse conception du mariage. Le mariage, ce n'est pas figer un sentiment, c'est sceller un engagement et le respecter. On passe au deuxième mensonge. Ouais, mais le mariage, c'est une question de vie privée. Alors, j'ai déjà dit plein de fois le mot individualisme de notre société, je pense que ça va rentrer. Et notre réflexe premier, c'est de dire, mais non, le mariage, c'est une affaire privée. Les autres n'ont rien à en dire, et Dieu encore moins, ça ne regarde pas, ça ne regarde que les deux êtres du couple. Ça, mes amis, c'est une illusion. Parce que les décisions qu'on prend dans un couple, aussi intime soit l'union d'un couple, elle a aussi des répercussions sur l'entourage. Que ce soit dans la famille, que ce soit les amis, que ce soit la société en général. Quand on se marie et quand on se démarie, entre guillemets, ça a des conséquences. Malheureusement, le plus triste et le plus dur, là où on s'en rend vraiment compte, c'est quand ça se passe mal. Donc c'est irresponsable de croire que c'est une affaire purement privée. Bien sûr, il y a une grande partie privée, hein, je ne dis pas. Mais le mariage n'est pas juste une affaire de vie privée. On a des comptes à rendre, d'abord envers notre conjoint, mais on a aussi des comptes à rendre envers la société. C'est pour ça que quand on se marie à la mairie ou à l'église, il y a des témoins pour prouver qu'il y a bien eu un engagement public. Troisième mensonge. Se marier, c'est un folklore culturel démodé et qui coûte cher. Alors en fait, ce mensonge-là, il est avant tout lié à un problème de vocabulaire ou de sémantique. Le problème, c'est qu'en français, le mot mariage est utilisé pour deux choses différentes. Pour la situation matrimoniale, le fait d'être marié, et pour la cérémonie ou la fête, on se marie, c'est le mariage. Alors on va dire oui. C'est évident, on ne confond pas les deux, c'est quand même pas pareil, je ne suis pas bête. Mais pour beaucoup de gens, la différence entre un mariage et un autre type d'union, ça va être principalement justement cette cérémonie. Alors, on peut comprendre que certains trouvent ça folklorique, ils ne se retrouvent pas du tout dans l'image que les salons du mariage vont véhiculer sur ce que c'est le mariage, et disent « moi, je n'ai pas besoin de ça ». Démodé, oui, peut-être, pas tant que ça, vu le business que les gens arrivent encore à se faire là-dessus. Qui coûte cher. Là, oui, là, c'est le rabbin qui sommeille en moi, qui est très sensible à ce type d'argument. Alors, je suis allé, je regardais sur Internet quel est le budget moyen que les Français consacrent à une cérémonie de mariage, à une fête de mariage. Et en croisant plusieurs sources, j'ai trouvé que facilement un couple mettait en moyenne plus de 8 000 euros. Et si on va regarder les professionnels du mariage, ils vont vous dire qu'en dessous de 15 000 euros, ce n'est pas la peine. Vu comme ça, le mariage, ça devient un luxe qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est horrible. C'est horrible. Je regrette que ce type de mensonge puisse être la raison de l'obstacle à ce moment de mariage. Des gens qui vont se rabattre sur une autre solution. On n'aura pas besoin de faire tout ce travail-là. Mais le mariage, avant tout, ce n'est pas ça, ce n'est pas la cérémonie. Le mariage, avant tout, c'est l'engagement public à ce devoir, et je cite le Code civil, mutuellement respect, fidélité, secours et assistance, article 212, et communauté de vie, article 215. Et je rajouterai, parce que ça ne figure plus dans le Code civil, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le mariage, c'est ça. Ce n'est pas la cérémonie qui va y changer. D'ailleurs, je ferai remarquer que un mariage à la mairie, c'est gratuit. Un mariage à l'église, ça peut l'être. Pas besoin de se laisser impressionner par les traditions que notre société ou nos familles peuvent nous imposer. Et si vous êtes dans ce cas, que vous vouliez vous marier, mais que ça, c'était l'obstacle à votre mariage, je vous invite à reconsidérer la question. Et peut-être que nous connaissons des gens autour de nous qui sont dans ce cas, qui sont gênés, bloqués. Des enfants, des nouvelles nièces, des petits-enfants, des amis. Et peut-être que nous faisons partie de ces gardiens de la tradition qui pourraient être choqués ou heurtés si jamais la tradition n'était pas respectée par rapport à l'organisation de ce rite initiatique qu'est le mariage. Et si, au contraire, dans ces situations-là, nous étions plutôt des sources d'encouragement, des promoteurs du mariage, où on valorise l'essence du mariage, quitte à démystifier la cérémonie et la tradition. Le mariage est un projet très bon voulu par Dieu. C'est la seule forme qu'il a prévue. Quatrième mensonge. Si je me marie, je serai plus heureux. Alors peut-être que ce mensonge vous surprend, qui vous paraît très naïf. Et personnellement, je ne l'aurais jamais formulé comme ça. Mais je dois reconnaître que pendant longtemps, c'était un peu sous-jacent dans mes pensées quand même. Parce que depuis que j'étais tout petit, je ne sais pas pourquoi aussi jeune, je me posais ce genre de questions. J'étais angoissé par l'idée de savoir si j'allais pouvoir me marier un jour ou pas. Et c'était une incertitude qui me préoccupait énormément pendant des années. Pendant longtemps, je percevais le mariage comme un graal à atteindre, le but ultime de ma vie. Je le voyais comme une condition nécessaire et suffisante pour être heureux. Mais maintenant que je suis marié, je peux vous dire, j'en profite, elle n'est pas là, elle est avec les enfants. Ah, mais c'est enregistré, je ne peux pas dire n'importe quoi. Non, personnellement, j'ai la chance de tomber sur une femme aussi formidable avec laquelle il me fascine de bien m'entendre. Mais dans combien de cas le mariage est-il le début des problèmes? En tout cas, le début de nouveaux problèmes. Les amis, réfléchissez-y, le mariage, c'est un investissement. C'est des sacrifices. Et il faut qu'on prenne au sérieux. C'est pas que pour être plus heureux, enfin oui, c'est une source de bonheur. Mais ça demande, ça coûte. Donc si on n'est pas content de cela, on va au-devant de grandes désillusions. Cinquième mensonge. Le mariage, c'est le modèle, la norme pour être un bon chrétien. Alors j'espère qu'on n'avait jamais entendu ça explicitement ici, ou du moins, surtout pas du haut de la chair. Mais parfois, dans ce qu'on dit, on peut laisser entendre ce genre d'idée involontairement. On peut laisser croire que pour être un vrai chrétien, un bon chrétien, il faut être marié. C'est quand même mieux, c'est quand même plus sérieux. Dit qu'il n'y avait pas 36 solutions, mais il y en a deux. Il y a deux situations qui sont tout à fait valables dans la vie. Le mariage et le célibat. Et souvent, on méprise, ou on ignore, ou on considère ça comme un échec, le célibat. Mais la Bible valorise le célibat. Si on regarde le texte parallèle à celui qu'on a lu aujourd'hui, dans Matthieu, déjà évoqué tout à l'heure, mais à la fin, Jésus évoque des cas de célibat. On peut lire, donc c'est Matthieu 19, verset 12. En effet, il y a ceux qui ne peuvent pas se marier parce que, de naissance, ils en sont incapables. D'autres le sont devenus par une intervention humaine. D'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Donc Jésus donne ici trois cas de figure qui débouchent sur le célibat. Soit par une incapacité de naissance, alors je ne sais pas s'il avait des cas précis en tête, soit par une intervention humaine, et l'utilisation du terme eunuque dans les versions plus littérales me fait penser qu'il évoquait sûrement les gens qui avaient été castrés pour un service particulier, enfin des esclaves qui avaient été castrés, notamment ceux qui s'occupent des femmes du harem, et on comprend pourquoi. Et le troisième cas qu'il évoque et qui est intéressant, c'est ceux qui renoncent au mariage pour se consacrer au royaume des cieux. Le célibat comme outil de consécration au service d'un ministère particulier. Et on pense par exemple au vœu célibat des prêtres dans l'Église catholique, qui s'inscrit un peu là-dedans. Et quand on regarde dans la Bible, Jésus était lui-même célibataire en fait, et il n'était pas un sous-homme pour autant, au contraire, c'était le seul qui était parfait. Il ne s'est jamais considéré comme socialement inférieur non plus. L'apôtre Paul aussi, était célibataire, et non seulement il l'était, mais il encourageait les chrétiens à être comme lui, notamment dans ce sentiment qu'il avait qu'on devait se préparer pour la fin des temps. Alors, je lis dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 7, « Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier, l'un le mariage, l'autre célibat. » Et plus loin, au verset 32 à 34, « C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. » Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme. Et le voilà tiraillé de part et d'autre. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur. Pas d'autre désir que de se dévouer à lui corps et esprit. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. Donc ici, on voit l'intérêt. La valorisation qui est faite du célibat pour pouvoir se consacrer mieux à Dieu. Et on peut dire aux autres aussi que quand on sert Dieu, ça se répercute sur notre prochain. Alors, je vais conclure et je vais juste récapituler trois des grandes idées qu'on a vues en filigrane. La première, c'est que le mariage est un cadeau de Dieu pour l'homme et la femme et qu'il a été conçu dès la création. Et donc, dès la création, c'est-à-dire avant la chute, avant l'intrusion du péché. Et avant cela, tout était parfait. Donc, le mariage est une institution parfaite voulue par Dieu. Deuxième chose, c'est que le mariage, c'est un lien solide qui ne peut pas être rompu. L'homme n'a pas le droit de séparer ce que Dieu a uni. Ça nous appelle à prendre au sérieux le mariage. Soit de le prendre au sérieux quand on est marié, mais aussi de le prendre au sérieux avant d'être marié un jour, de s'y préparer pour que ce soit plus facile pour la personne avec qui on soit de vivre avec nous. Ça peut aussi être de prendre le mariage au sérieux dans le discours que nous pouvons avoir avec les autres. Dans la société, on encourage plutôt un discours léger. Le mariage, c'est un peu démodé, donc on va faire des blagues là-dessus. Mais réfléchissons à la manière dont nous parlons du mariage, à quel point nous sommes légers ou sérieux par rapport à ça. Troisième chose, nous devons nous débarrasser de notre manière égoïste devant la vie. Que ce soit dans le mariage ou dans le célibat, ne vivons pas pour nous-mêmes. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, Jésus qui dit : voici quel est mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a placé la barre très haut. Si nous regardons à notre vie, nous pourrons faire le constat que nous ne sommes pas à la hauteur. Et il est possible que ce que je dis depuis tout à l'heure, fait que attiser des souffrances ou titiller une culpabilité, voire susciter la colère. Je vous invite à ne pas en rester là, ne pas rester tout seul à gérer ces luttes. Je vous invite maintenant à avoir un temps de prière où on puisse vraiment se placer devant Dieu. Je ne sais pas quel est le point que chacun d'entre nous sur lequel on aurait été interpellé et qu'on puisse répondre. Notre cœur, on n'a pas besoin de faire des prières à haute voix. Dieu sait ce qu'il attend de nous. Et peut-être que ce matin, nous avons compris ce que Dieu attend de nous. Que ce soit la repentance, que ce soit lui demander secours parce que c'est trop dur, on n'y arrive pas. Que ce soit d'autres choses, qu'on puisse vraiment se présenter devant Dieu. Je vous invite à fermer les yeux. Merveilleux que tu as institué pour l'humanité, le mariage. Et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Seigneur, tu vois, tant de souffrances, tant de honte, tant de colère, tant de culpabilité qui ne vient pas de toi. Tout cela, c'est parce que nous sommes attaqués. Tout ça, c'est parce que c'est un moyen super efficace que l'ennemi a trouvé pour nous écraser. Mais Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas dans cet état-là. Tu ne nous laisses pas écraser. Tu ne nous laisses pas dans la culpabilité. Tu ne nous laisses pas dans la souffrance. Tu ne nous laisses pas dans la frustration, dans la déception. Tu nous relèves. Tu as vaincu Satan. Tu l'as écrasé. Et tu nous as donné une perspective qui dépasse largement ces échecs, ces déceptions qui peuvent nous tirailler. Et Seigneur, merci parce qu'on n'a pas besoin de garder ces souffrances. On n'a pas besoin de garder cet enfermement de nos pensées. Seigneur, merci parce que tu veux nous donner la liberté. Et Seigneur, ce matin, je te prie pour que ceux d'entre nous qui sommes tiraillés et qui sommes dans la souffrance, nous puissions expérimenter réellement. Soyons remplis de paix, remplis de joie, parce que la perspective que tu as devant nous, elle est tellement merveilleuse. Je te prie pour que tu changes notre mentalité qui est tellement influencée par l'individualisme. Seigneur, nous voulons prendre conscience que nous faisons partie de ton projet. Nous faisons partie en de vrai.